L'heure des infos avec vous, Laurence Gontier.
Le bilan de la collision de deux trains à grande vitesse hier soir en Andalousie pourrait bien s'alourdir dans les prochaines heures, alors que des engins vont déblayer les lieux de la catastrophe. Au moins 39 personnes ont été tuées, plus de 120 autres ont été blessées, certaines très grièvement. L'accident reste inexpliqué puisqu'il a eu lieu sur une ligne droite, sur un tronçon de voie rénové et avec un train quasiment neuf. Les surtaxes douanières visant les pays européens annoncées par Donald Trump nuiront autant aux Américains qu'aux Européens, prévient Friedrich Merz, le chancelier allemand qui veut essayer de voir le président des États-Unis mercredi, à la veille d'un sommet extraordinaire des 27 qui compte évoquer les menaces répétées de Donald Trump qui martèle sa volonté de s'emparer du Groenland. En attendant, la Commission prône le dialogue plutôt que l'escalade. Le recours à la peine capitale dans le monde connaît une augmentation alarmante, prévient le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Ce dernier manifeste sa préoccupation face à la situation en Iran, en Arabie Saoudite ou encore aux États-Unis. Sébastien Lecornu doit prendre la parole cet après-midi. Il s'exprimera devant la presse à l'issue du Conseil des ministres qui doit décider s'il fait adopter le budget par 49.3 ou par ordonnance. Une fois n'est pas coutume, le Premier ministre interviendra aux côtés de la porte-parole du gouvernement qui s'exprime habituellement. Des inondations localisées, mais pas de débordements importants de cours d'eau dans le secteur de Narbonne. Les pluies doivent cependant s'intensifier dans les prochaines heures. Hier soir, le préfet a invité les habitants de deux quartiers de la ville à évacuer leur domicile. L'Aude est en vigilance orange, tout comme l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et les départements Corse pour crues et ou pluies inondations. À la Bourse de Paris, le CAC 40 est actuellement en forte baisse, moins 1,55% à 8131 points. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand pour une page d'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Laurence, bonjour à tous.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes le 3 mars 1875 et ce soir-là, l'opéra comique est plein à craquer. Ça va être la première d'un opéra comique dont on parle beaucoup, la première d'une œuvre en quatre actes, Carmen. Jamais ce lieu n'avait encore été le théâtre d'une histoire qui évoque aussi crûment la passion, la violence, une histoire qui se termine très mal. Un mot sur l'opéra comique peut-être. Bien sûr que l'opéra comique c'est un lieu que nous célébrons aujourd'hui sur Radio Classique, mais l'opéra comique c'est aussi un genre assez important et qui se distingue de l'opéra du grand genre de l'opéra. Au départ, on appelait ça la comédie en vaudeville et puis la comédie mêlée d'ariette. Ça se définit, on va dire, comme un théâtre parlé qui est entrecoupé de morceaux chantés, dansés avec des airs, des ensembles, des chœurs, une ouverture, etc. Jusqu'en 1864, jusque vers la fin du Second Empire, l'opéra comique détenait le monopole de ce genre particulier. Mais disons-le, en 1875, les choses n'ont pas foncièrement changé. L'œuvre que propose le jeune Georges Bizet, c'est cette Carmen inspirée du roman célèbre à l'époque de Prosper Mérimée. Comme chez Mérimée, l'action se situe au début du 19e siècle, à Séville et dans les environs de Séville. Et comme chez Mérimée, l'œuvre a mis du temps à être conçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Alain Duhaut, dans son dictionnaire amoureux de l'opéra, nous dit « Georges Bizet a beaucoup détruit, perdu son temps sur des projets inaboutis, beaucoup hésité et guère cru en lui. C'est sans doute là que gît l'un des paradoxes de ce compositeur qui a donné à tant de mélomanes l'envie d'aller en Espagne, lui qui n'y a jamais mis les pieds. » En quatre chapitres, Carmen de Mérimée est à la fois un roman court et une longue nouvelle, si vous voulez. C'est un roman qui n'a pas eu un succès phénoménal. Il est paru pour la première fois dans la Revue des Deux Mondes, c'était en 1845, et puis ensuite il a donc été publié en volume, mais on ne peut pas dire que les gens se soient précipités dans les librairies pour se l'arracher. D'après des lettres envoyées par Mérimée à son amie la comtesse de Montijo, cette comtesse de Théba, cette comtesse de Montijo, c'est la mère de la future impératrice ce génie, bien entendu. Mérimée a commencé à réunir des éléments pour Carmen dès 1830. Il a fait un premier voyage en Espagne, d'où il devait envoyer à la Revue de Paris les lettres d'Espagne. Et dans ces lettres, il dit qu'il a rencontré une femme qui ressemble à Carmen, Madame Gérard Douville. Dans la préface qu'elle donnera à cette réédition de Carmen qui date de 1927, nous dit « L'Espagne le distrait, il a 27 ans, il envoie de là-bas des lettres sur ce pays à la Revue de Paris qui publie ses souvenirs de voyage pleins de couleurs, de tenues et de réflexions. Mais il a bien autre chose en tête et au cœur. Mérimée rêve. Il rêve à ses amours finis, à l'inconstante qu'il n'oublie pas et voudrait oublier. Or, des cendres jetées sur le souvenir étincelant, la flamme sournoise rampe, s'élève, s'épanouit, danse, c'est déjà Carmen. Il fréquente les gitanes, les muletiers, les danseuses. Il observe de près les célèbres et triomphantes filles qui, dans les bouches des faubourgs, au grincement ventru des guitares, au claquement mortuaire des castagnettes, au bruit des mains frappant le rythme vivant, entraînent dans les mouvements de leur danse et le délire de leur corps toutes les convoitises. » Il va retourner en Espagne, Mérimée, en 1840, mais ce n'est donc qu'en 1845 qu'il écrit, en seulement 8 jours qu'il écrit « Carmen ». Et il écrit d'ailleurs le 16 mai 45 « Je viens de passer 8 jours enfermés à écrire. Une histoire que vous m'avez racontée il y a 15 ans et que je crains d'avoir gâtée. Il s'agissait d'un Jacques de Malaga qui avait tué sa maîtresse, laquelle se consacrait exclusivement au public. Comme j'étudie les bohémiens depuis quelque temps, avec beaucoup de soin, j'ai fait mon héroïne bohémienne. » Alors, il y a un narrateur qui est un archéologue. Il est en train de chercher l'emplacement d'une ancienne bataille, la bataille de Munda, et qui va à 3 reprises rencontrer un bandit, José Navarro. La 3e fois, le bandit qui est là, qui attend d'être exécuté dans sa prison, José lui raconte qui il est et pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il est en prison. C'était un brigadier qui a conduit lui-même en prison une cigarière qui avait blessé une de ses compagnes au moment d'une dispute. Il a été complètement ébloui par cette jeune femme. Il a fait exprès de la laisser s'échapper. Ça lui a valu une dégradation et un emprisonnement. Et quand il est sorti, il est allé retrouver Carmen. Et après avoir tué son lieutenant dans une bagarre, eh bien, il s'est joint à la bande des contrebandiers qu'avait déjà rejointe Carmen. Et plus tard, il a tué un certain Garcia, qui était le mari, si on peut dire, en tout cas le compagnon de Carmen, puisqu'elle avait répondu aux avances d'un autre homme. Elle n'était pas allée jusqu'au bout, elle, de la fidélité. « Je la frappais par 2 fois. C'était le couteau du borgne que j'avais pris, ayant cassé le mien. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois voir encore son grand œil noir me regarder fixement. » Puis il devint trouble et se ferma. Je restais anéanti une bonne heure devant ce cadavre. Vous voyez bien que le roman tel que l'a conçu Mérimée possède déjà en germe tous les ressorts dramatiques qui vont faire le succès de l'opéra comique.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Quand je dis comique, encore une fois, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir avec quelque chose de drôle ou d'amusant. Comique, ça signifie, quand on dit opéra comique, ça signifie simplement que c'est une pièce de théâtre parlée qui va être entrecoupée de morceaux. Et par la suite seulement, un compositeur qui s'appelle Ernest Guiraud va remplacer les passages originaux qui étaient parlés par des récitatifs, ce qui va transformer l'opéra comique d'origine en opéra au sens plus classique du terme. Alors, si Bizet choisit ce sujet, c'est parce qu'à l'époque, en 1875, on est encore dans l'espagnolade, comme on dit. L'Espagne est très à la mode, l'impératrice Eugénie l'a mise à la mode sous le Second Empire, mais l'Empire est tombé, et néanmoins, on continue à aimer l'Espagne. Pensez aux toiles de Manet, par exemple. Et dans son œuvre, Bizet va d'ailleurs incorporer une habanera, l'amour est un oiseau rebelle, n'est-ce pas, qui est inspirée de la célèbre habanera El Arre, le petit arrangement du compositeur Sebastián Iradier, qui est un Espagnol. Il y aura aussi une séguédille, qui est une danse andalouse, etc. L'un des patrons de l'opéra comique s'appelle Adolphe de Leven, et quand il apprend tout ça, quand il voit ce qu'on est en train de lui présenter pour l'opéra comique, il voit rouge. Je cite de nouveau Alain Duhaut. Leven prend connaissance du sujet et s'épouvante. Montré sur la scène de l'opéra comique, rendez-vous des familles, lieu habituel des entrevues de mariage, l'assassinat de Carmen par son amant, et cela dans un milieu de voleurs, de bohémiens, de cigarières. C'est impossible. C'est impensable. Et oui, l'opéra comique est un endroit où l'on va pour passer un bon moment et où les intrigues sont systématiquement légères. Et là, d'un seul coup, nous sommes quasiment dans la tragédie grecque. On va voir du sang couler sur la scène. Ce qui va sauver Bizet, finalement, dans cette affaire, c'est que une partie des parts de Leuven dans l'opéra comique sont rachetées par Camille Dulocle, qui va devenir le seul commanditaire, si vous voulez, et qui, lui, va accepter Carmen. Alors, quand même, les librettistes font quelques petites modifications. On donne un rôle beaucoup plus important au personnage d'Escamillo, le torero de Grenade. On invente ce personnage de la fiancée de Don José, Micaela. On essaie de rendre ça tout plus gentil. Il n'empêche que Don José est bien un dévoyé, que Carmen est bien une débauchée. C'est quand Don José chante « La fleur que tu m'avais jetée », c'est un amour non seulement un amour totalement inhabituel pour l'époque, mais c'est un amour tout simplement scandaleux. La voix ensorcelante, extraordinaire de Roberto Alagna dans ce très célèbre air du deuxième acte de Carmen, La fleur que tu m'avais jetée. C'était Michel Plasson qui dirigeait l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bizet a énormément travaillé, un an et demi acharné pour pondre, si j'ose ainsi m'exprimer, une partition qui fait 1200 pages en tout. Il est allé travailler à Bougival, qui était la petite bourgade à la mode à l'époque. Hein. C'est là que vivait Tourguenieff, on verra Berthe Morisot s'installer à Bougival, Renoir et Sisley aussi. Bon, Bizet travaille énormément. D'ailleurs, ça ne facilite pas ses relations avec sa compagne Geneviève. Ils vont se séparer pendant trois mois, tellement il est devenu invivable. Il ne pense, il est habité par son œuvre. Et bientôt vont commencer les répétitions. Septembre 1874. Alors, il y a une nouveauté dans cet opéra comique, c'est que les chœurs doivent être sur scène et bouger. Et les chœurs n'ont pas l'habitude de bouger, donc ils refusent tout simplement. Et le chœur des cigarières, entre parenthèses, paraît inexécutable au bout de deux mois, pourtant d'un travail incroyable. Et puis, autre problème, la cantatrice prévue se récuse. Et finalement, c'est une jeune mezzo qui va être choisie. C'est Célestine Galimarié. Elle va laisser son nom. Son nom va entrer passer à la postérité, du fait même qu'elle accepte ce rôle, Célestine Galimarié, qui nous dit « Nul artiste ne pousse plus loin que Madame Galimarié l'art plastique de la prose », nous dit un des chroniqueurs de l'époque. Elle est sur ce point inimitable. Aussi a-t-elle une individualité qui lui est propre, une originalité toute particulière dans ses créations. Eh ben, ça tombe bien. Il faut dire qu'elle a joué toutes sortes de rôles, Galimarié. Elle a joué notamment des rôles de travestie. Elle a chanté en 1864 dans Lara de Louis-Aimé Maillard. Elle a campé une esclave soumise et amoureuse de son maître, qui justement se travestit, c'était dans un déguisement masculin pour pouvoir le suivre, etc. etc. Alors, elle va être bien sûr le phare de la distribution. Pour le brigadier, il faut un ténor. Micaela sera une soprano, plus effacée évidemment que le rôle de Carmen. Et puis, c'est un baryton, bien sûr, baryton basse, qui jouera Escamillo, le toréador. Bizet va travailler considérablement, mais aidé, appuyé, constamment soutenu par le fameux patron de l'opéra comique dont je vous parlais tout à l'heure, Camille Dulocle, qui participe à la mise en scène. On fait appel à Édouard de Taille, qui grand peintre, vous savez, de bataille notamment, qui va dessiner les décors. On peut dire que d'une façon générale, l'œuvre qui est en train de naître est quelque chose de très nouveau. On n'a jamais vu des décors aussi pittoresque, on n'a jamais vu des costumes aussi bariolés, une musique avec des accords totalement inattendus, un mélange de musique aussi. Nous avons la musique française, la musique allemande, la musique italienne et accessoirement la musique russe, disait Bizet, la musique hongroise, la musique polonaise, sans compter la musique arabe, la musique japonaise, la musique tunisienne, très en faveur, toutes les trois depuis l'ouverture de l'exposition universelle. Il parlait de l'expo de 1855. Eh bien, dans Carmen, on va trouver de tout. Et on va trouver de tout, installé, si je puis dire, adapté dans des chœurs, des duos, un quintet, un duo pour flûte et harpe, un sextuor, un trio, enfin, il y a tout, tout est possible. On a même des accords arabes et chinois. Les musiques latines tiennent une place importante, hein, je vous l'ai dit, il y a cette habanera, bien entendu, il y a cette segedi, et puis un orchestre qui est composé d'une façon inattendue pour un orchestre d'opéra. 12 violons 1 et 2 et 10 petits, 8 altos, 6 violoncelles, 4 contrebasses, 2 flûtes, 1 piccolo, 2 hautbois, 1 cor anglais, 2 clarinettes, 2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones, la harpe donc, des timbales, des percussions à profusion. Bref, quelque chose d'inattendu, une sorte, nous dirions-nous, une sorte d'ovni musical qui va fondre sur le public en ce 3 mars 1875, avec, je vous le dis, des harmonies très nouvelles, comme en témoigne le célèbre thème de la mort au 4e et dernier acte. La voix très naturelle de Julia Migenes et puis bien sûr la voix exceptionnelle de Placido Domingo. C'est un extrait de la bande originale du film de Francesco Rosi qui a été tourné en 1984. Ce Carmen qui a rendu encore plus populaire, si c'était possible, à l'échelle de la planète entière, l'opéra de Georges Bizet, car c'est devenu un opéra.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, pour Bizet, vous imaginez, le grand jour est arrivé, hein, ce 3 mars 75. D'ailleurs, pour lui, la journée a bien commencé, puisque le matin, on lui a remis la Légion d'honneur. Et puis, le soir, à l'Opéra Comique, donc à la salle Favart, ça va être la première. Patron, le directeur est un peu inquiet, hein. Il a prédit un échec. Il dit que cette musique paraît cochin-chinoise et totalement incompréhensible. Bizet est lui aussi très inquiet. Il souffre d'une angine terrible. Il y a souvent des mots de gorge, et d'ailleurs ça va avoir des conséquences fatales, cette affaire. Il retombe malade comme à chaque fois qu'il est très stressé, et faut vous dire que dans la salle, il n'y a pas seulement le tout Paris. Les gens se sont pressés pour assister à cette œuvre qui promettait beaucoup. Il y a là les grands compositeurs du temps. Offenbach, Gounod, Massenet, Daudet, Dumas, fils, tous sont là. On est dans une histoire qui rappelle directement le roman de Mérimée que les gens sont allés acheter en vitesse pour justement se remettre dans le contexte. Et le public découvre d'abord l'héroïne Carmen qui porte du rouge, une couleur qui s'oppose au jaune, la couleur traditionnelle des tenues des dragons espagnols, et à la jupe bleue de Micaela, tout ça en couleur très primaire et très forte. Au milieu du tableau de la Posada, nous dit Hervé Lacombe, Galimarié est vêtue d'un corsage de gaze algérienne blanche lamée d'or, une ceinture d'or, une écharpe de soie blanche rayée de rouge, lamée et frangée d'or, nouée à la taille, une jupe courte de satin jaune brodée entièrement sur le devant de fleurs à couleurs vives, des bas chers, des mules mordorées, un collier, des boucles d'oreilles et des bracelets en gros sequins, un peigne d'or et une rose rouge dans les cheveux achèvent ce magnifique portrait. À l'acte 3, elle porte une jupe faite de châle croisé, une veste et un petit chapeau de toréador. Vous imaginez la nouveauté de tout cela devant un public qui ouvre des yeux de plus en plus ronds, qui est assez décontenancé, il faut bien le dire. Alors, à l'acte 1er, on voit le brigadier, on voit Don José qui va emmener Carmen en prison après cette grande dispute, n'est-ce pas ? Et puis, lui-même... va la faire libérer, et il est damné, si je puis dire. Acte 2, c'est la sortie de prison de Don José qui va rejoindre dans la taverne. Alors c'est un acte qu'on n'aurait jamais pu imaginer jusqu'alors sur la scène de l'opéra comique, la scène donc de la taverne. Il va rejoindre les contrebandiers, et ces contrebandiers, à l'acte 3, il les suit dans la montagne, n'est-ce pas, là-bas dans la montagne. C'est très romanesque, c'est très pittoresque, mais c'est surtout et d'abord très déroutant pour le public de l'époque. Et ce qui va surtout choquer, c'est l'acte 4, lorsque Carmen rompt avec Don José pour lui préférer Escamillo, et que Don José va finalement la poignarder. C'est moi qui l'ai tuée, ma Carmen adorée. Vous imaginez la tête des bonnes familles qui sont là dans le théâtre, dans cet opéra comique. On n'a jamais vu tant de violence dans cette salle-là, cette héroïne qui meurt sur scène. Tout ça paraît aberrant.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et vous pouvez faire confiance à la critique pour se déchaîner le lendemain. Une fois que l'on s'est engagé dans l'égout social, dit un journaliste, on est forcé de descendre encore, c'est toujours plus bas qu'on choisit ses modèles. Et un autre dit, la honte d'un pareil sujet, lequel depuis 2 siècles n'avait jamais déshonoré une scène destinée au plaisir délicat et au divertissement de bonne compagnie. Alors il y a quelques avis positifs, hein, tout de même. Dans le journal des débats, justement, Reyer dit, Carmen n'est pas morte. Et à l'opéra comique, on en a vu bien d'autres qui sont revenus d'aussi loin. Et puis il y aura petit à petit un engouement qui se créera. On verra de très grands esprits. Je pense évidemment à Nietzsche, hein, dont on sait que Carmen était littéralement la source d'inspiration. Mais on verra aussi Tchaïkovski, etc., qui aime Carmen d'amour, si je puis dire. Ça deviendra l'opéra le plus joué au monde. Mais tout ça, Georges Bizet ne le saura jamais. Et il s'est acharné, il a beaucoup misé, lui, sur cet opéra. Et ce qu'il voit, lui qui est surmené, complètement fatigué, épuisé, ce qu'il voit, c'est que la pièce, l'opéra comique, va sortir très vite de scène. Il est allé se réfugier à Bougival pour essayer de se remettre un peu, mais en fait, il est pris de rhumatisme violent, il va faire une crise cardiaque, un médecin arrive qu'il soigne, mais il mourra dans la nuit du 2 au 3 juin, vous voyez, donc très peu de temps après la première de Carmen. Il avait à ce moment-là 36 ans. Ève Ruggieri vous racontera tout à l'heure la vie si brève et si fulgurante de ce génie, Georges Bizet.
Vous écoutez Radio Classique.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Territoires enneigés et enivrants se déploient à la scène musicale. L'archet de la violoniste Lia Petrova vous guide dans l'hypnotisant concerto pour violon de Mendelssohn avant de plonger dans le rêve d'hiver de la première symphonie de Tchaïkovski. Un voyage par l'Orchestre symphonique des Flandres, dirigé par Martin Dendievel, à retrouver ce 21 janvier à la scène musicale.
Bonjour, c'est Alain Duhaut. En décembre prochain, je vous propose avec Radio Classique un tour de la Baltique en musique à bord du Commandant Charcot, navire de la flotte Ponant Exploration. Avec en invité vedette le grand violoncelliste Gauthier Capuçon, entouré de ses amis dont les pianistes Franck Bralet et Jérôme Ducrot entre autres. Un parcours magnifique, des artistes formidables, ce sera Noël en avance.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 3 au 12 décembre 2026 au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
(14h30, 18h, les heures légères, avec Élodie Fondacci, sur Radio Classique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie d'entamer avec vous une nouvelle semaine des Heures Légères, une émission dont vous connaissez, je crois, désormais le concept. Chaque jour, une éphéméride qui est le prétexte à un thème poétique, farfelu, incongru, ça dépend des jours. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Sachez que le 19 janvier 1911, la danseuse Isadora Duncan se fait remarquer dans l'Orphée de Gluck, au Théâtre du Châtelet à Paris. Drapée dans une tunique à la grecque, les pieds nus, les cheveux piqués de fleurs, la grande danseuse américaine va rompre avec la tradition académique. Souple, svelte, sans corset serré, cette pionnière de la danse moderne va littéralement sidérer le public de la belle époque par son audace, ses mouvements fluides, sa façon bien à elle déjà de revendiquer la liberté du corps des femmes. Elle va devenir une véritable égérie du Paris de la belle époque. Orphée. Orphée, encore lui. Voici décidément un personnage mythique qui est au cœur de l'histoire de la musique. Ce héros grec dont la musique pouvait charmer les créatures les plus malveillantes est le héros du premier opéra, mais pas seulement. Peri, Caccini et tant d'autres compositeurs jusqu'à l'époque contemporaine ont donné leur version du mythe. Eh bien, cela m'a inspiré l'idée de notre thème du jour, Orphée et la musique, mais pas seulement. Orphée et les mythes grecs en général et la musique classique. étions aux portes des enfers. Avec cette danse des furies tirée de l'Orphée et Eurydice de Gluck, Raphaël Pichon dirigeait l'ensemble Pygmalion. Orphée a donc reçu de sa mère le don merveilleux de la musique et Apollon lui a fait cadeau d'une lyre. Quand il joue de cet instrument, eh bien, les bêtes les plus féroces viennent s'étendre à ses pieds. Aucune créature n'est capable de résister à sa musique. Et bien sûr, les jeunes femmes aussi sont charmées par la musique d'Orphée. Eurydice va être celle que Orphée va aimer éperdument. Malheureusement, un jour, quelque temps après qu'ils se soient rencontrés, eh bien la belle Eurydice est mordue par un serpent. Et voici Orphée, inconsolable. Déchirante d'un Orphée désespéré, un extrait de l'Orphée et Eurydice de Gluck que nous jouait au piano Alexandre Tarot. Alors, Orphée, donc, a tant de chagrin, il est tellement incapable de se résoudre de la perte de sa bien-aimée qu'il va descendre aux enfers pour essayer de la récupérer et obtenir d'Hadès qui lui ouvre la porte parce que toutes les créatures infernales vont être séduites par le chant et la lyre du poète. Mais il y a une seule condition que Orphée doit respecter, il ne doit pas se retourner de peur de perdre son épouse. Je vous propose d'écouter l'ouverture de l'Orpheus de Télémane qui lui aussi, un siècle après Monteverdi et bien avant Gluck, s'est inspiré du mythe d'Orphée. Thank you. C'est à la fin des années 90 que René Jacobs exhume, si l'on peut dire, cet Orpheus de Télémane, Orpheus ou la merveilleuse Constance de l'amour. C'était un opéra qui était un peu tombé dans l'oubli, qui a été redécouvert, incomplet, et remonté par René Jacobs. À l'instant, nous écoutions l'Orpheus Baroque Orchestra et Michi Gueg à la baguette. Alors, chère Jessica, eh bien, vous avez immédiatement pensé à Offenbach. Évidemment, Offenbach aussi s'est emparé du mythe d'Orphée à sa manière, une manière un peu survoltée et pleine d'humour, puisque Orphée a bien vieilli, désormais il s'ennuie auprès de son épouse Eurydice, qui va être enlevée par Pluton. Enfin, je vous propose en tout cas d'écouter l'Orphée quadrille sur des thèmes d'Offenbach qu'a composé Johann Strauss.
Thank you.
Dans la version d'Offenbach, le couple mythique formé par Orphée et Eurydice bat de l'aile puisque les époux se détestent cordialement. Johann Strauss, à l'instant, l'Orphée quadrille sur des thèmes d'Offenbach, désopilants et tellement joyeux. C'est Georges Prêtre que nous écoutions. Il dirigeait le Philharmonique de Vienne. Philippe Glass, lui aussi compositeur minimaliste, s'est emparé de ce mythe d'Orphée et du personnage à la lyre enchanteresse. Orphée descendu aux enfers sait retourner, malgré la promesse qu'il avait faite à Hadès. Un instant, il a eu peur des ténèbres, un instant, il a eu peur de perdre Eurydice. Nous écoutions donc l'Orphée de Philippe Glass, composé donc en 93, un opéra de chambre en 2 actes et 18 scènes. Ce sont les sœurs Labec, Katia et Marielle, qui nous ont interprété cet extrait. Et d'ailleurs, c'est sur le scénario du film éponyme de Cocteau que Philippe Glass s'est fondé pour réaliser son opéra. On va écouter l'Orphée de Johan Johansson, à présent compositeur islandais. La beauté noire et ensorcelante de la musique de Johan Johansson, nous écoutions Orphée, inspiré bien sûr du célèbre mythe, dans la version des Theatre of Voices. Il est 14h58 et nous marquons une pause sur Radio Classique. Dans quelques instants, bien sûr, la musique revient après le flash. Et puis entre 17h et 18h, notre thème, Orphée, la musique et les mythes grecs, pour aller plus loin.
Améliorez votre expérience d'écoute de Radio Classique grâce au DAB+. Bénéficiez d'une qualité sonore exceptionnelle et de données plus complètes sur la programmation musicale. Une radio gratuite en qualité numérique, sans abonnement ni connexion Internet. Radio Classique vous accompagne en haute définition grâce à la technologie DAB+.
En France, 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie génétique. Vous pouvez les aider. En faisant un leg, donnez du sens au combat des chercheurs de l'Institut Imagine, comme le Dr Saunier.
Faire un leg, c'est accélérer la recherche, identifier la cause de la maladie chez les enfants, leur apporter un diagnostic, une meilleure prise en charge et trouver des traitements adaptés.
Transmettez l'espoir, transmettez la vie. Faites un leg à l'Institut des maladies génétiques sur institutimagine.org.
Tempétueux, délicat, virtuose. L'orchestre Appassionato et Mathieu Herzog exaltent l'archétype beethovenien avec l'une des pièces les plus fidèles à son image populaire, le concerto pour piano numéro 3. Une œuvre à l'expressivité rare, magnifiée par le toucher du pianiste Ido Barchai. Pour une soirée, vous trouvez ça classique, héroïque, le 24 janvier à la scène musicale.